Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour commenter l'actualité avec Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Bonjour. Michel Taube, vous êtes fondateur du site d'information Opinion Internationale. Vous êtes également le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour, bonjour à vous. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour à vous. Eh bien, pas mal de sujets encore aujourd'hui. On va dire quelques mots de l'élection de Joe Biden, le nouveau Messie. Pour certains, on a l'impression qu'il va guérir tout le monde. Beaucoup se réjouissent effectivement que Donald Trump ait été battu. Enfin, vous êtes nombreux à nous dire pas encore. Il faut attendre le recompte des voix, les recours, etc. Mais enfin, officiellement, il est celui qui est arrivé en tête avec plus de 4 millions de voix. On va parler du Black Friday, ce vendredi de rabais absolument insensé sur tout ce qui se fait par vente à distance. Et puis, faut-il mettre des amendes pour le non-respect du confinement? On en parle avec vous. Petit tour de table habituel sur ce qui a retenu votre attention. Ben, commençons avec Sophie de Menton.
Oui, écoutez, retenu notre attention, c'est une belle formule parce que je vois pas comment on pouvait échapper à l'élection américaine sur toutes les chaînes à n'importe quel moment pour redire la même chose d'ailleurs. Mais il y a quelque chose par contre qui n'a retenu l'attention de personne, semble-t-il, c'est ce qui se passe en Arménie. Et je crois que l'Europe est complètement absente, que Erdogan est en train de finir le travail, entre guillemets, sur le génocide arménien, sur l'Azerbaïdjan, que l'Europe ne réagit pas du tout, que heureusement Poutine, même Poutine a bombardé un camp, tout ça près du Haut-Karabakh, et que je suis atterrée parce que c'est aux portes de l'Europe, il se passe quelque chose de fondamental. On a quand même Erdogan qui, mine de rien, est en train d'islamiser absolument toute l'Europe avec une intention d'extension incroyable. Et ça, ben, on n'en parle pas. Je veux dire, un génocide arménien, on en a déjà eu un, on est en train d'en commencer un deuxième. J'ai signé moi-même une pétition et j'ai redécouvert ça ces jours derniers, parce que quand est-ce que vous en avez entendu parler?
Bah, on en entend parler, mais c'est vrai que ça ne retient pas l'attention tellement ni des médias, ni de nos compatriotes.
C'est pas possible, ça va avec notre insécurité, ça va avec ce qui se passe en France, ça va avec ce qui se passe en Autriche. Tout ça, c'est quand même la même démarche, la même cause. Et là, si l'Europe n'est pas capable de réagir contre ça, je veux dire, il y a une armée turque, d'accord, mais enfin, c'est pas grand-chose. Si l'Europe n'est pas capable de réagir, alors là, je comprends plus du tout.
Oui. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Sophie? C'est vrai qu'on parle assez peu de ce qui se passe là-bas, Michel Taube.
Bon, la seule nuance que j'introduirais, c'est que je pense pas que c'est un deuxième génocide arménien. Faut pas, c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle. Deuxième élément, je regrette l'attitude de. Je regrette l'attitude des autorités d'Azerbaïdjan, d'autant que c'est un des seuls pays laïcs, entre guillemets, dans la région, puisque les autorités d'Azerbaïdjan contrôlent de très très près toutes les expressions religieuses, dans leur diversité d'ailleurs. Et donc, je trouve ça fort dommage que l'Azerbaïdjan nuise considérablement à sa réputation internationale en s'en prenant ainsi aux Arméniens. Mais bon, ça n'est pas un deuxième génocide,
non,
fort
mais
heureusement.
Très peu de réactions internationales.
C'est à la fois ignorer ce qui s'est passé il y a 120 ans et je pense exagérer la situation d'aujourd'hui, même si elle est très grave, et qu'il faut que l'Europe joue au moins les médiateurs dans ce conflit. Hein.
Ouais. C'est vrai, Michel, mais là, il y a une autre dimension, c'est l'islamisme.
Oui, absolument. Matteo, vous aviez un coup de gueule.
Je me reconnecte un petit peu aussi à ça, dans le sens que je parle aussi d'Europe, dans le sens que moi, mon coup de gueule, c'est pour le dédouanement affirmé et déclaré par Gérald Darmanin vendredi passé à Rome, dédouanement de l'Italie, du gouvernement italien actuel. à propos du fait qu'il a, il aurait pas des responsabilités dans le passage en France du terroriste de Nice qui a égorgé trois personnes, qui a tué trois personnes dans la basilique de Notre-Dame de l'Assomption. Je suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord parce que, étant aussi italien, j'ai vu le détricotage des décrets voulus par une partie de ce même gouvernement quand il y avait l'alliance avec la Ligue de Matteo Salvini. Donc c'est la main droite qui ne sait pas ce que fait la main gauche. Et ils ont détricoté ces décrets sécurité, qu'on les appelle en italien, qui empêchait, qui déjà défavorisait l'activité des ONG, que on sait très bien ne sont pas toujours en train de faire le bien des clandestins, parce que quand on va rechercher des malheureux au milieu de la mer, qui ont été jetés au milieu de la mer par des passeurs, on fait pas du tout l'intérêt de ces personnes qui sont en grave détresse. Et personne fait un discours de non-accueil et des refus de personnes qui sont dans le besoin, mais on ne peut pas favoriser des mafias, des passeurs, et surtout on ne peut pas dire que l'Italie n'a aucune responsabilité, parce que jusqu'il y a un an, on pouvait arrêter ces navires. D'ailleurs, Matteo Salvini est sous procès parce qu'il a fait le travail d'un ministre de l'Intérieur dans n'importe quel pays, et l'Europe, en fait, tient par la laisse l'Italie en disant bah, si vous voulez l'argent du MES et d'autres choses, vous changez un petit peu les règles pour l'accueil. Non, désolé, ce n'est plus possible, et la France a tout le droit aussi de fermer ses frontières. Je le dis contre mon intérêt aussi, parce que les frontières que je passe le plus souvent sont celles entre l'Italie et la France. Mais désolé, on peut pas dire que l'Italie n'a rien fait, a tout fait plutôt pour arrêter cette personne, parce qu'elle est arrivée à Lampedusa. Dans l'espace de 15 jours, elle est arrivée à Nice et elle a tué trois personnes. Excusez-moi. Et je me reconnecte à ce que j'en disais tout à l'heure à propos de l'Europe. Désolé. Mais si on continue à faire ce que veut l'Allemagne, parce qu'elle a des intérêts diplomatiques avec la Turquie qui la regarde, désolé, on ne pourra pas faire comme...
Non, Matteo. Alors moi je comprends bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on a laissé les Italiens, on les a laissés tomber assez souvent, mais qu'est-ce qu'il faut faire actuellement?
Après avoir tout dit simplement, ça, il faut réaffirmer les droits de chaque État de contrôler ses frontières. C'est très simple.
Non, mais t'as bien les frontières.
C'est pas très simple. Qui veut réagir à ça sur ce rétablissement des frontières?
On a diabolisé à cause de Marine Le Pen. On a diabolisé parce que Marine Le Pen disait...
Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose quand vous voyez comment finalement ils arrivent à arriver justement, Romain Colas, sur cette question?
Sur le fond, je pense qu'il est matériellement, humainement vain de penser que nous pourrions fermer de façon hermétique les frontières de notre pays. Donc du point de vue très opérationnel, je n'y crois pas un instant. Vraiment pas une seconde. Et ensuite, sur le fond, un retour des frontières à l'intérieur de l'Union européenne, c'est la fin de l'Union européenne. Et je pense que sur la question du terrorisme, sur la question que nous évoquions à l'instant du Haut-Karabakh, on n'a pas besoin de moins d'Europe, on a besoin de plus d'Europe, d'une Europe plus efficace, qui coopère plus. Et je rejoins parfaitement Sophie, moi j'accable pas l'Italie, que comme la Grèce, nous avons, et quand je dis nous, ce sont les Européens, nous avons laissé bien seuls face à l'afflux de réfugiés. Donc ma réaction, elle est double. Un, c'est inopérant. Deux, ce n'est pas souhaitable au regard du rôle que doit jouer l'Europe.
Alors, moi, j'aimerais réagir.
Michel, Taube.
Je pense que le degré de tolérance des sociétés diminue au fil des attentats terroristes commis par des réfugiés, des demandeurs d'asile et autres. Et je pense que deuxièmement, effectivement, c'est un échec de l'Europe et que seule une réponse européenne permet de gérer ces flux migratoires. Mais c'est bien tout le problème depuis maintenant des années. C'est qu'on n'a pas doté ni la Grèce lorsqu'il y a eu la crise avec la Turquie qui a ouvert ses frontières en 2015, ni avec l'Italie plus récemment, on n'aura pas donné les moyens de gérer ces flux migratoires. Ce n'était pas aux Italiens de gérer seuls cette extraordinaire pression qu'ils ont subie, c'est l'Europe qui aurait dû aider l'Italie à la gérer. Et c'est vrai que sans aller dans les excès verbaux de Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur italien, mais en s'inspirant en partie de certaines mesures courageuses qu'il a prises, et Matteo a raison de dire comme ministre de l'Intérieur, tout simplement, pour protéger nos populations, il aurait fallu se doter de beaucoup plus de moyens de contrôle des personnes qui arrivent sur le sol européen pour pouvoir faire plus le tri parmi les demandeurs d'asile et ceux qui arrivent sur notre sol. C'est une question de protection de nos concitoyens.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant et on continue à débattre. On va parler de l'élection de Joe Biden ou la non-élection, puisque je me fais insulter en disant que je reprends la thèse officielle des médias et que non, Biden n'a pas gagné. On pourra en débattre justement de cette élection américaine si compliquée. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on se retrouve pour le 10h midi avec vous pour commenter l'actualité avec Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, Michel Taub, fondateur du site Opinion Internationale, Romain Colas, secrétaire national du PS, et Sophie de Menton. C'est tout de suite pour parler des élections américaines, du Black Friday et des amendes pour le non-respect du confinement. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et les débats, c'est jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff, Biden, le nouveau Messie. Faut-il interdire le Black Friday? Faut-il des amendes pour le non-respect du confinement? On continue notre petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Romain Colas, vous, ça concerne Jean-Michel Blanquer.
Oui, Jean-Michel Blanquer qui ne lasse pas de m'étonner dans la capacité qui est la sienne à mettre en difficulté les acteurs de terrain. C'était le cas lorsqu'il portait des messages pendant la phase du premier déconfinement à destination des parents, leur disant que tous les enfants pouvaient retourner à l'école alors même qu'il avait imposé un protocole sanitaire sans doute justifié, mais qui interdisait avant son accomplissement d'accueillir tous les enfants. Donc, il mettait les chefs d'établissement et les maires qui gèrent les écoles élémentaires et maternelles dans une situation de difficulté. En nous adressant des injonctions paradoxales. Et là, à la fin de la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer nous a annoncé qu'il fallait mettre en œuvre un protocole sanitaire renforcé dans les lycées et qu'il appartenait au chef d'établissement. Il appartenait au chef d'établissement, selon leur souhait de mettre en œuvre ce protocole renforcé dans les lycées. Tout ceci est une vaste blague et je trouve que la tendance naturelle de Jean-Michel Blanquer, c'est de s'exonérer de ses responsabilités, parce que si on veut renforcer le protocole sanitaire dans les lycées, il faut déployer un certain nombre de moyens, et depuis le confinement, force est de constater, depuis le premier confinement, que toutes les leçons n'ont pas été tirées. Et donc, on place les chefs d'établissement, qui n'ont pas été dotés de moyens nouveaux, dans une situation de responsabilité. C'est une tendance de fond.
Depuis et alors, c'est impossible pour un fonctionnaire aussi brillant qu'un chef d'établissement d'être responsable?
Oui, absolument.
C'est pas français. Je veux bien finir mon propos si ça
allez-y,
vous ennuie pas.
Allez-y.
Je crois que vous l'avez fini.
Comment dirais-je? Comment vous faites, pardonnez-moi, pour accueillir la moitié des élèves? Vous faites comment quand les autres doivent suivre en distanciel? Comment vous faites? Est-ce que vous êtes assuré que chacune des classes de lycée de ce pays soit équipée de matériel de visioconférence? Est-ce que vous pensez que c'est l'état de nos lycées? Et pardon de le dire, moi je crois à l'idée qu'il y a une éducation nationale dans ce pays, qu'il n'y a pas eu une autonomie des établissements s'agissant des moyens. D'ailleurs, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, cette autonomie des établissements s'agissant des moyens.
Vous n'en voulez pas
dire,
il ne faut pas qu'ils soient responsables.
Et donc, mais écoutez, moi je veux bien que vous vous excitiez sur le sujet. Je crois vous avoir écouté patiemment, y compris quand je n'étais pas d'accord avec vous. Ce que je crois, c'est qu'il y a une capacité permanente de ce ministre à se défausser sur les acteurs de terrain sans leur donner les moyens d'agir. Voilà.
Oui, mais est-ce qu'ils existent, les moyens? Je vous pose la question, Romain Colas. Concrètement, est-ce qu'ils existent? Qu'est-ce que vous, dans votre commune, à quoi est-ce que vous êtes confronté? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Dans la commune, j'ai pas de lycée. Donc la question, la question se pose pas immédiatement pour moi. Mais dire devant le pays qu'il faut un protocole renforcé dans les lycées, tout en étant parfaitement conscient que la mise en œuvre de ce protocole est totalement impossible et en disant que ça relève de la responsabilité des chefs d'établissement, pardonnez-moi, mais je ne crois pas que ce soit de bonne politique, je ne crois pas que ce soit à la hauteur d'un ministre de l'Éducation nationale.
Mais, bon. Pardon.
Allez-y.
J'ai terminé.
Là où je rejoins Romain Colas, c'est que cette crise révèle combien en France il y a un manque d'agilité, vraiment d'agilité et de prise des responsabilités en situation nouvelle de crise. C'est vrai que, par exemple, lorsque j'ai appris, je parle sous le contrôle peut-être de Sophie Menton qui le sait peut-être, que le parc des expositions de Paris, Porte de Versailles, avait proposé d'ouvrir ces gigantesques halls complètement vide à cause de la crise pour soit les hôpitaux, soit les universités, soit les écoles, afin d'avoir justement des espaces plus grands pour déconcentrer les lieux de soit d'hospitalisation, soit d'enseignement, qu'ils n'ont même pas eu de réponse, c'est fort regrettable. Et de façon générale, je suis d'accord avec Romain Colas, sauf que lorsqu'on est face à une situation de crise et quand bien même l'administration ne fait pas son boulot, ce qui, je conviens, est le cas. Moi, ma fille, elle a 10 ans, ça fait depuis une semaine qu'il y a la rentrée scolaire, et ils n'ont toujours pas reçu de gel hydroalcoolique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas attendu que le ministre les fasse. Les parents d'élèves se sont organisés pour pouvoir en livrer à l'école. Bon, bah, c'est triste, mais c'est ce qui compte. Donc, l'agilité, elle doit être à tous les étages.
Oui, mais l'agilité pour acheter du gel, c'est une chose. Non, organiser une classe avec 30, 40 élèves et dire une partie sera en distanciel, l'autre pas, une semaine après, on l'a un petit peu évoqué hier. C'est vrai qu'on comprend pas très bien la façon dont tout ça est organisé.
Alors, Valérie, je crois que c'est vraiment important. Je pense que, et je suis d'accord, sur l'analyse qui est faite en disant que ça dysfonctionne actuellement. Je ne pense pas que ce soit la faute de Blanquer. Blanquer, il est en train de naviguer à vue avec des comités scientifiques qui disent un jour qu'il faut envoyer les enfants en classe, un jour qu'il ne faut pas, un jour qu'ils sont porteurs de contagion, un jour ils ne le sont plus. Il faut laisser les parents aller travailler, donc il faut mettre les enfants à l'école pour que l'économie marche. Donc franchement, je crois pas que ce soit vraiment de sa faute. En revanche, il y a un état de fait, c'est que nous n'avons jamais eu d'établissement scolaire autonome. Et là, vous avez dit le mot, c'est pour ça que j'ai bondi, et pardonnez-moi, vous dites c'est la responsabilité du chef d'entreprise. Eh bien oui, du chef d'entreprise, vous voyez, j'ai un lapsus. Du chef d'établissement, c'est aussi un chef d'entreprise. Et il aurait fallu que ce le soit, si ça ne l'est pas. Quand on gère du personnel, des professeurs, des enfants, etc., il y a un minimum d'autonomie. Il est inimaginable qu'on attende de l'État du gel. Je veux dire qu'il doit avoir un budget si ce n'est pas fait.
Non, mais du savon peut-être, du savon, du papier toilette, des choses comme ça, ça dépend de l'établissement. Mais,
Valérie, Sophie, c'est à l'État de fournir le papier toilette des écoles.
Bah oui.
Je veux dire, bah, on est dans un monde de fous.
Vous ne le fournissez pas dans votre entreprise ? Vous ne le fournissez pas dans votre entreprise ?
Pardon, pour les écoles, ce sont les mairies, pour les collèges, oui, ce sont les départements, et pour les lycées, c'est la région.
Oui, mais c'est pas aux parents de le faire, c'est ce que je veux dire. C'est pas les parents qui font ça. On a une auditrice qui nous dit, je travaille chez un prof de lycée technique qui me dit que le chef d'établissement est complètement dépassé, qu'il est déjà difficile de faire cours dans les périodes normales. Alors là, c'est l'anarchie, plus certains qui en profitent pour mettre dessous dans la roulette. Je sais pas très bien ce qu'elle a voulu dire, mais qu'en tout cas,
il faut absolument redonner une autonomie aux établissements. Il faut que ce soit un patron qui ait des fonds pour fonctionner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de l'approvisionnement en savon, en papier chiotte et en gel hydroalcoolique. C'est inimaginable.
Alors, Mathéo.
Je pense qu'il faut aussi responsabiliser un petit peu même les professeurs, dans le sens que pour revenir à ce qui s'est passé après le déconfinement, déjà, je me rappelle deux choses. Qu'on a utilisé les enfants ou les personnes âgées avec une certaine saisonnalité. Au début, je me rappelle, il y avait des pédiatres qui arrivaient à la télé sur les plateaux et qui disaient que non, les enfants ne sont pas contaminés, alors que dans la même période, par exemple, encore une fois, je regardais les choses qui se passaient, en l'occurrence à Bergame, qui est ma ville natale, où il y avait plein de morts et où il y avait un établissement qui a établi la liaison entre la fameuse maladie de Kawasaki et le Covid, dans des circonstances très particulières, je ne rentre pas dans les détails. Mais ici, on avait les pédiatres, ils disaient « Non, mais ne vous inquiétez pas, on peut recommencer l'école. » Très bien. Sauf que l'école n'était pas recommencé, n'avait pas recommencé comme il fallait, dans le sens que c'était sur la base volontaire. Après, cet été, on a dit que les grands-parents pouvaient tranquillement prendre les enfants. Et après, on a dit que c'était dangereux pour eux. Et sur, à la base de tout, on a pas du tout pris une leçon de ce qu'on a fait en mai. Désolé, mais on peut pas laisser, on peut pas imaginer que le virus ne se réactive pas dans la situation de mouise dans laquelle on s'est trouvé déjà en mars.
C'est la troisième vague.
On n'a pas du tout anticipé cette chose. Et quand on a demandé un peu de flexibilité aux uns et aux autres, déjà on a vu les professeurs qui étaient tout de suite sur le front parce qu'ils disaient non, c'est pas possible, on risque. Bien sûr, on risque. Mais désolé, c'est pas normal d'avoir comme réponse de professeurs souvent une grève. Dans une situation comme celle-ci, ils pensent pas du tout aux enfants, pas du tout, à leur intérêt.
Enfin, pardon, mais là, je ne sais pas si vous vous souvenez, Valérie, mais ouais. J'avais adressé un coup de cœur aux enseignants au moment de la mise en œuvre du déconfinement, parce que je suis désolé, Mathéo, mais vous êtes, pardonnez-moi de vous le dire, dans une caricature absolue. Moi, je suis maire d'une commune de 8000 habitants, j'ai 950 enfants qui sont scolarisés et dans les écoles maternelles et élémentaires, et j'ai eu en face de moi, pendant la phase du confinement, pendant la préparation du dit confinement et pendant sa mise en œuvre, des enseignants qui ont fait des pieds et des mains parce que nous avions un objectif partagé, ce qui était de permettre le maximum de retour à l'école des enfants.
Il y en a eu aussi beaucoup
qui ont ravagé.
On fait la grève. Ah non, c'est pas sûr. Voilà. Et les personnes qui travaillent dans les entreprises, ils ne couraient pas des risques quand ils allaient travailler.
Vous voyez ce que c'est, vous venez de faire une belle illustration de ce qu'est la caricature. Vous commencez votre propos en disant les enseignants se sont foutus en grève et ils n'avaient pas de soucis des enfants. Puis là, vous me dites, oui, confronté à la réalité des faits.
Vous défendez la catégorie pour des raisons électorales, on comprend et on comprend parfaitement idéologique, naturellement.
Et là, vous êtes vous êtes pas du tout dans la caricature. Voilà. Je vous parle de ce que j'ai vécu sur le terrain et de ce que j'ai mis en œuvre avec les enseignants.
Et les intérêts des enfants. Et les intérêts des enfants. Quand il y a des professeurs qui se disent tout simplement on se met en grève, est-ce que quelqu'un pense à l'éducation des enfants? Désolé.
On n'arrivera pas à tous
vous mettre d'accord là-dessus.
Et M. Collas, ce n'est pas en tant que parti socialiste qui parle là, c'est en tant que maire d'une commune. Moi, je peux aussi attester que dans mon quartier, encore une fois, il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'administration, pas de gel hydroalcoolique. Et ben, tout le monde s'est mobilisé avec la directrice de l'école, les enseignants et les parents. Et en 24 heures, le problème était réglé.
Il faut
généraliser, comme le disait Sophie, les possibilités d'autonomie.
Je voudrais qu'on ait eu le temps de débattre de nos sujets du jour. Michel Taube, un coup de gueule et un coup de cœur rapide, un coup de cœur pour votre journal.
C'était pour se réjouir. En fait, mon média a été parmi ceux qui ont lancé une mobilisation pour une enfant qui a disparu dans un collège il y a 12 jours, qui se prénomme Feriel, près d'Orly, qui avait disparu subitement. Il y a une extraordinaire mobilisation dans la commune d'Ablon-sur-Seine et autour jusqu'à Orly. Les médias se sont mobilisés, mais Kylian Mbappé et d'autres artistes se sont également mobilisés. Et la bonne nouvelle est tombée il y a 2 heures. La petite Feriel a été retrouvée après 12 jours de disparition. Et ça prouve quand même que les médias, parfois, ça sert à quelque chose, parce que la combinaison de la médiatisation avec la diffusion par des centaines d'habitants de la commune de photos, d'appels à témoins avec la photo de la petite jeune fille Feriel, ont permis en fait à un passant de la croiser gare de Lyon. Elle l'a reconnue, elle a appelé la police et la triste histoire était terminée. Le coup de gueule, finalement, le coup de gueule, c'est un coup de cœur parce que Jean-Luc Mélenchon a bien entendu annoncé hier soir sa candidature à l'élection présidentielle en 2022. Je me disais qu'on ne pouvait pas ne pas en parler dans l'émission de Valérie Expert. C'est une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron parce que c'est l'assurance que la gauche va partir divisée à la présidentielle en 2022, puisqu'il y aura au moins 2 candidats de la gauche. On en connaît un. Forcément, il y en aura un deuxième, un écolo, un socialiste, peut-être ou 5. Et ouais. Donc, c'est, je pense que c'est le jour de... aujourd'hui, c'est, enfin, hier soir, c'était l'enterrement de première classe sur TF1 des espoirs de la gauche pour 2022. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour la France. Voilà.
Oui. Pas tout à fait d'accord, Michel. Autant je ne suis pas socialiste, mais on ne peut pas. Mélenchon est un type quand même qui est un peu dangereux. Et je veux dire, il y a quand même une gauche, on pourrait espérer, imaginer qu'il y ait une gauche normale. N'oublions pas qu'a priori, Macron était à gauche. Donc, a priori. Donc, moi, je suis toujours un peu inquiète quand il y a des extrêmes. Donc, je n'ai pas l'enthousiasme de me dire qu'il va diviser. Et à force de diviser, où va-t-on ?
Ouais. Bon, voilà, on n'a pas eu très envie de le traiter ce matin. Je ne sais pas si c'était une information essentielle, qu'on fait une faute journalistique en ne parlant pas de la candidature de Mélenchon. Romain,
je veux bien relever deux choses. La première, parce que je rebondis sur les propos de Michel, c'est que je le trouve bien définitif et que jamais le paysage d'une élection présidentielle n'a été figé un an et demi avant l'échéance. Donc moi, je me garderais bien de tirer des leçons définitives de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon d'hier. Le second commentaire que je veux faire, je pose une question sans y apporter de réponse, c'est que je trouve que le choix du calendrier est très étrange. Oui. Il aurait voulu faire de cette déclaration un non-événement, alors même que, au terme de 4 jours de suspense, ce week-end, c'était le temps de l'élection présidentielle américaine. D'ailleurs, son intervention s'est calée 5 minutes entre une grande page du JT de TF1 sur l'élection présidentielle et puis une nouvelle grande page sur le Covid. Donc, je trouve le moment. Moment par Jean-Luc Mélenchon très étrange et je ne peux m'empêcher de penser qu'il a peut-être précipité son calendrier pour des raisons qui sont internes. Je n'ai pas le sentiment qu'il ait la main sur son mouvement comme il l'a eu avant. Il a voulu sans doute griller des politesses.
Est-ce que je peux poser une question, non pas cette fois-ci au maire, mais au secrétaire, au représentant du Parti Socialiste? Évidemment que vous n'allez pas vous mettre derrière Jean-Luc Mélenchon pour 2022. Donc, ça veut bien dire que si vous voulez survivre dans le paysage politique national, vous allez devoir choisir un candidat ou une alliance avec certains écolos. Non, je pense vraiment que Mélenchon précipite la division de la gauche qui est inhérente de toute façon à son destin depuis maintenant 20 ans ou 15 ans. Et voilà, et donc effectivement, je maintiens que c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron qui, de ce côté-là, a beaucoup moins de craintes à se faire.
Tout ce qui divise la gauche favorise la droite, et donc Emmanuel Macron, je suis d'accord avec vous.
Enfin, allez. La droite est pratiquement aussi divisée. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je vole au secours du PS presque, mais la droite, c'est pas brillant non plus, hein, le nombre de candidats.
Allez, on va parler un petit peu des élections américaines dans un instant. Joe Biden, donc les résultats de l'élection américaine sont relativement clairs. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis avec plus de 75 millions de suffrages exprimés. On en reparle avec vous dans un instant. Que peut faire Joe Biden pour réconcilier cette Amérique ? À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Ah là 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 là, cette élection américaine qui n'en finit pas, qui a mis un certain temps avant de sortir le résultat qui est contesté, hein, je le dis par le président Trump. Biden donc élu, je l'ai dit, 46e président des États-Unis. Donald Trump n'a toujours pas l'intention de reconnaître sa défaite. Il n'a pas pris la parole publiquement comme en général le fait le candidat qui est battu. Et depuis l'annonce de Joe Biden, il se montre toujours aussi actif sur Twitter. Alors, tout est un peu manichéen. On a l'impression à voir, en tout cas les commentaires en France, que Joe Biden va sauver le monde. Biden peut-il changer le monde ? Peut-il changer beaucoup de choses ? Et puis Kamala Harris, qui, elle aussi, apparaît comme la première femme vice-présidente des États-Unis, qui est encensée alors qu'on ne sait pas grand-chose sur ces deux personnes. Je rappelle quand même que Joe Biden est un fervent chrétien, très 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 relativement conservateur. Donc, que peut changer Biden et que va-t-il changer ? C'est une bonne nouvelle pour vous, les uns et les autres. Qui veut commencer ? Michel Taube ?
Alors, moi, d'abord, deux choses. D'abord, il faut quand même dire très précisément qu'il y a quand même près d'une dizaine d'États dans lesquels le résultat est très serré et que dans l'hypothèse où sur ces 10 États où les résultats sont très serrés, il devait y avoir lors d'un recomptage une inversion des voix, tout est encore possible. Et j'en veux pour preuve que le président du Mexique, quoi, qui est quand même pas le dernier État qui était partenaire de Trump, Trump leur a quand même mené la vie dure pendant 4 ans, le chef d'État du Mexique et il y a une heure, Vladimir Poutine lui aussi, ont tous deux dit qu'ils attendaient le résultat définitif des élections pour saluer le nouveau président des États-Unis. Ceci étant dit, parce que Trump était tellement instable et tellement… deux choses, instable et il déteste l'Europe. Déteste, mais un point qui est inimaginable, qui doit être lié à des raisons psychiatriques, lié peut-être à ses relations avec son père. Donc, je pense que l'intérêt des Européens, c'est d'avoir, pour nous, Français notamment, c'est d'avoir, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, c'est d'avoir un interlocuteur stable et fiable pour pouvoir discuter. Et Biden, pour ça, vaut mieux quand même que Trump, même si Trump a fait des bonnes choses, notamment sur le plan économique, du rapprochement entre Israël et certains pays arabes. Donc voilà. Mais après, pour répondre directement à votre question, je pense que pour moi, effectivement, la grande nouvelle de cette élection, ce n'est pas l'élection de Biden, c'est surtout Kamala Harris, parce que la réalité, c'est qu'elle, elle se retrouve propulsée pour être, sinon dans quelques années, pourquoi pas avant la fin de son mandat, parce que Biden, quand même, on est un peu inquiet, mais en tous les cas, au moins dans 4 ans, elle risque fort d'être la candidate démocrate et la personne forte qui risque de jouer un rôle absolument décisif, bien au-delà du rôle d'un simple vice-président, c'est Kamala Harris. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment beaucoup insister sur elle.
Oui. Alors, c'est d'accord avec tout ce Sophie. Qui a été dit. Alors, maintenant, on en a fait un psychodrame, y compris en France, de Trump est-il battu ou pas ? Oui, il y aura aux États-Unis, il y a un système électoral qui fait que c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, il vaut mieux effectivement tout recompter, voir ça de façon apaisée. Trump a été franchement bon économiquement pour les États-Unis. Maintenant, moi, il y a un truc absolument basique, c'est que on ne peut pas avoir à la tête des États-Unis un type psychologiquement aussi instable. Donc, c'est même pas qu'on a de l'espoir dans Biden, c'est que le type qui dit quand même au journal télévisé qu'on sait que ce virus est sensible au détergent et qu'après tout, peut-être qu'on pourrait se nettoyer et avaler un peu d'eau de Javel pour lutter contre… Vous ne pouvez pas avoir à la tête du plus grand pays du monde ou pratiquement un chef d'État qui raisonne comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. Donc,
mais est-ce que vous pouvez avoir un président qui a 78 ans et qui se trompe sur le nom de ses petits-enfants, qui parle de son fils qui est mort ? Pardon ?
Je dis, on va un peu de Caribe en Silla, je suis d'accord. D'un autre côté, elle a l'air pas mal, la vice-présidente.
Mais oui, elle a l'air pas mal, je suis d'accord avec vous. Elle est sympathique, elle danse. Je vois toutes les femmes. Elle quoi ? Elle cuisine. Et je vois toutes les femmes qui disent elle est formidable, mais on ne sait pas grand-chose d'elle. Peut-être qu'elle sera formidable, mais c'est vrai qu'on…
Elle a eu un parcours exceptionnel, ce qui est quand même important. Elle a fait des choses. Et puis, si je dis ça, c'est uniquement parce que vous parlez effectivement de la fragilité éventuelle de Biden, qui, cela dit, je ne sais pas encore comment il tient encore debout, parce que faire une campagne électorale à 78 ans, ce n'est pas évident comme ça. Mais oui, à la tête des États-Unis, on avait un choix, pas cornélien, mais pire.
Oui, Matteo Ghisalberti.
Je voulais tout simplement rebondir sur le psychodrame dont vous parliez, Valérie, parce qu'effectivement, je l'ai observé un peu avec ma casquette d'étranger. Je pense qu'il y a sans doute une complexité qu'on ne comprend pas en France, parce que c'est beaucoup plus clair quand on va voter ici, déjà dans les temps, parce que les scrutins ont lieu entre 8h du matin et 18h, 19h, 20h maximum le soir, donc on a tout de suite la possibilité d'avoir des résultats. Les fiches électorales sont très simples en France, comment dire, j'extrémise un petit peu, mais on est un peu pressé de pouvoir donner l'info aux 20h pour dire bon, il a gagné la droite, la gauche, le centre, etc. Et dans ma petite expérience, rien que de l'autre côté des Alpes, avant de fermer des dépouillements d'un seul bureau de vote, on a un peu plus de temps. Il y a beaucoup d'interactions, par exemple, avec les représentants des listes, qui existent aussi en France aussi, mais qu'en Amérique sont aussi encore plus extrémisés. Et puis, les Américains savent aussi que 9 sur 10, la question est posée maintenant. Mais il y a aussi la possibilité de faire des recours. Et pour eux, dans leur système, les recours sont toujours quelque chose d'essentiel, dans le sens que même qui n'a pas des moyens, parfois, peut faire un recours, obtenir, par exemple, gain de cause dans une question commerciale plutôt que de dédommagement, etc. Pour moi, c'est plié, personnellement, mais bon, on ne sait jamais.
Ouais. Romain Colas.
Pour revenir à votre question initiale sur... Ouais. Biden va-t-il sauver le monde? Je ne le crois pas. Il va sans doute le rendre un peu moins fracassant, un peu moins désinvolte, un peu moins désordonné. Mais donc il faut se réjouir, à mon sens, de l'élection de Biden pour des raisons qui ont été évoquées, la personnalité de Trump, le désordre qu'il mettait dans les relations internationales, son instabilité. Pour ce qui concerne l'Europe, effectivement, comme le disait Michel, cette aversion pour le continent sur sa capacité à s'organiser au sein de l'Union, et puis quand même un retrait dans l'OTAN, alors même que l'Europe de la défense restant embryonnaire, et quand je dis embryonnaire, je suis gentil, nous avons toujours besoin des États-Unis, particulièrement à un moment où on ne peut plus jugé comme fiable un des membres de l'OTAN qui est la Turquie. Que Biden réinvestisse le champ des relations internationales en général, de l'OTAN en particulier, je pense que c'est heureux. Son retour dans l'accord de Paris aussi, qui marque le fait qu'au plus haut niveau aux États-Unis, ce pays étant l'un des principaux pollueurs de la planète, on se soucie de l'avenir commun des êtres humains sur cette terre, c'est une bonne nouvelle. Un élément quand même qu'il faut qu'on note et qui, moi, m'interroge depuis le scrutin de mardi et à mesure que les résultats sont communiqués et analysés. Une participation phénoménale, phénoménale. Jamais un président américain n'aura été élu avec autant de voix. Et même
lors d'une pandémie, d'ailleurs.
Et lors d'une pandémie, ça doit, à mon sens, quand on regarde les taux de participation chez nous, dans l'Hexagone, qui vont de mal en pis, qui régressent d'élection en élection, ça doit quand même nous interroger à la fois sur la clarté des offres politiques. La participation, elle est liée au fait qu'il y avait quand même deux visions de l'Amérique, de la politique qui quand même s'affrontait. Et donc, la polarisation de la vie politique, elle est utile, c'est-à-dire la clarté du choix qui est offert aux électeurs, parce que ça suscite de l'intérêt, ça suscite de la participation. Et deuxièmement, le fait d'offrir cette souplesse, particulièrement en période de pandémie, mais d'offrir cette souplesse, ça a permis qu'un grand nombre d'Américaines et d'Américains, un nombre jamais atteint pour une élection présidentielle américaine, se prononce. Et je crois que ça doit nous interroger sur nos pratiques aussi.
Beaucoup de gens s'interrogent sur les fraudes, les rumeurs de fraude. Il y a eu énormément de fake news. Hein, je dis pas que celle-ci en est une, mais il y a eu beaucoup de fake news autour des deux candidats qui ont été balancés d'un côté comme de l'autre. Ce sont des campagnes extrêmement violentes. Et ouais. C'est vrai que Donald Trump accuse de fraude massive Joe Biden. Donc on verra
parce ce que ça donne. Une image de la démocratie épouvantable. Je veux dire, c'est la plus grande démocratie. C'est quand même, ça devrait être exemplaire. Et ça va de mal en pis. Pardon ?
La plus grande démocratie du monde, c'est l'Inde, chère Sophie.
Ouais.
Pardon, excusez-moi.
Non, je disais que c'était effarant parce qu'il est impossible. Et c'est pour ça que c'est presque un peu agaçant qu'on en parle autant, parce que nous n'en savons rien. Il y a des observateurs qui ont dit le tout et leur contraire. Oui, c'est vrai, le nombre de voix, il y a très peu de différence dans certains États. Il y a aussi un phénomène qui, moi, me choque complètement, c'est que vous pouvez être président des États-Unis en ayant beaucoup moins de voix que votre opposant, parce que ce n'est pas le nombre de voix qui compte.
La mairie de Paris aussi, ça marche plus ou moins
la même façon. Oui, la mairie de Paris aussi, nous sommes d'accord. Donc, moi, ça me choque un petit peu. Je pense qu'il ferait bien de revoir un peu leur système électoral, parce que je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus ou de moins. Oui, il y a deux candidats qui ne conviennent pas très bien. Oui, cette élection est terrible. En revanche, on peut dire quand même une chose, c'est qu'on avait barricadé Washington, on avait cru à des émeutes épouvantables. Ouais. Trump avait fait croire que oui, tout le monde allait venir s'il n'était pas élu pour le soutenir. Etc. Il ne s'est rien passé. L'Amérique est assez calme. Oui, et donc, on a quand même déjoué les pronostics d'effroyables violences. On a vu aussi des gens interrogés qui étaient très trumpistes, si je puis dire, qui finalement disaient, ben bon, oui, il a peut-être pas perdu. Mais voilà, je pense que le peuple américain, qui est assez discipliné, contrairement aux Français, se résoudra probablement au choix qui sera fait.
Un auditeur me dit, arrêtez de dire que Trump, on verra les plaintes de Trump, vous faites du complotisme, il n'y a aucun recours de Trump qui ont abouti.
Bah, écoutez, ah, il veut de l'argent à tout prix pour ça.
Il y a une batterie d'avocats. Oui, Roma Colas.
Non, parce que je réagis à ce que disait Sophie de Menton sur le fait que la démocratie américaine serait salie. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le seul responsable du mélodrame qui se joue à l'heure actuelle, c'est Trump lui-même. Et je disais à l'instant qu'au contraire, les Américaines et les Américains nous ont donné une grande et belle leçon de démocratie parce qu'ils se sont prononcés massivement, parce qu'on leur a donné aussi différents moyens de se prononcer, et que c'est Trump qui s'allie aujourd'hui l'image de ce scrutin. Il n'y a pas, et nous ne nous faisons pas nous-mêmes les relais de la propagande trumpiste, parce qu'à l'heure où on se parle, je suis d'accord avec ce que disait l'auditrice à l'instant, il n'y a rien de concret. Et les observateurs, il n'y a pas des observateurs qui ont dit tout à leur contraire, il y a les observateurs de l'OSCE qui ont dit que pour eux, il n'y avait pas matière à alimenter le soupçon d'une fraude massive et généralisée. Donc ça va compter. Je crois qu'il y a des responsables dans chacun des États, et c'est ça qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Hein. Hillary Clinton, qui était majoritaire face à Donald Trump, en voix lors du scrutin de 2016. Elle a été interrogée par une journaliste française, d'ailleurs, qui lui posait la question de savoir si, au regard de cette distorsion entre le nombre de voix et le fait qu'elle ait perdu, in fine, l'élection, elle souhaitait qu'on change le mode de scrutin. Et ça, on le voit avec notre garde français. Elle a dit, mais évidemment non, parce que ça correspond à nos traditions. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas un État jacobin centralisé comme le nôtre, c'est une fédération d'États. Et le fait que ce soit une fédération d'États, ça signifie que chaque État envoie ses grands électeurs. Et il n'y a pas une légitimité supra-étatique, si vous voulez.
Voilà. Comme la mairie de Paris.
Je pense qu'il faut le respecter.
Moi, ce que je voulais dire, souvent on dit souvent que les bonnes idées viennent souvent de l'Amérique et qu'on se contente souvent d'importer les choses de nos voisins d'outre-Atlantique. Tout de même, là où il y a un exemple donné par les Américains, c'est l'importance du vote par correspondance et même la possibilité de voter les semaines avant la date fatidique. Si on avait mis en place ce système en France, quand même, on est un grand pays, on sait contrôler, entouré de
possibilités
de vote multiples, le sort des élections municipales de juin aurait été totalement différent. Et pour l'année prochaine, pour les élections régionales et départementales, c'est un système qui nous permettrait d'aller sereinement voter. En permettant d'assurer un taux de participation élevé et donc d'avoir des résultats conformes à la réalité politique de notre pays et non pas comme
était. J'ai peur, Michel, que ce soit. J'ai peur un peu, Michel, que ce soit notre désaffection de notre personnel politique qui nous empêche d'aller voter et non pas le système. Et là, effectivement, où finalement je suis plutôt d'accord sur le fait que cette confédération nécessite des votes par État, c'est que si on compare, par exemple, imaginons qu'on veuille voter à l'échelon européen, il est évident qu'il faudrait compter autrement et non pas le nombre de voix, mais bien par pays. Donc c'est vrai que c'est très différent. Et quant aux Américains, j'ai justement dit qu'ils avaient été beaucoup plus citoyens qu'on l'imaginait et que tous les troubles qui étaient annoncés par la Terre entière n'ont pas eu lieu.
Allez, on se retrouve dans un petit instant un peu plus léger, on va dire. On va parler du Black Friday ce vendredi de promotion sur les réseaux sociaux. Faut-il l'interdire comme le demandent 4 fédérations de magasins de centre-ville. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. À nul douter, il va vous parler des élections américaines. Faut-il interdire le Black Friday ? Alors le Black Friday, vous en avez certainement entendu parler. C'est ce vendredi où des promotions à tout casser vous sont proposées par un certain nombre de plateformes de commerce en ligne. 4 fédérations de magasins de centre-ville et de centres commerciaux ont demandé au gouvernement de restreindre les ventes en ligne aux seuls produits de première nécessité et d'interdire ce Black Friday. C'était une tribune qui a été publiée hier dans le Journal du Dimanche. Sophie de Menton, vous vouliez en faire votre coup de gueule. Donc, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait, en cette période de Covid, réguler ce Black Friday qui ne profite pas qu'aux grandes plateformes, parce qu'il y a des petits commerçants qui vendent également sur Amazon et autres ces discounts.
Vous venez de le dire, on est en train de faire des amalgames délirants et on a un gouvernement qui, sous prétexte d'une égalité, veut tout interdire. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi ridicule que les grandes surfaces où vous avez des bâches sur certains rayons, qui d'ailleurs peuvent quand même vendre des produits parce qu'il y a des gens à l'entrée qui vous disent « si vous voulez que j'aille vous chercher un produit, vous n'avez pas le droit d'y aller, mais je peux vous le trouver ». Donc, on est en train, il faut consommer. On a une épargne qui est importante, presque trop importante. Il vaudrait mieux qu'elle se dirige d'ailleurs cette épargne vers les entreprises, mais elle est là. On sait qu'il faut consommer, qu'il faut dépenser. Les Français d'ailleurs en ont besoin aussi bien en matière de jouets que de cadeaux de Noël qu'ils vont faire. Évidemment, ce Black Friday qui, rappelons-le d'ailleurs, évidemment vient des États-Unis, qui est une forme de solde avant les soldes. On réglemente tout en France, c'est insupportable. Et alors en plus de ça, non seulement pendant qu'on y est, on pourrait interdire le Black Friday, mais on est en train de nous définir quels sont les produits essentiels et non essentiels. C'est une aberration. On a là un État qui sort de son rôle complètement, qui en plus, il y a une dilution du pouvoir du fait des administrations, des différents ministères et d'un cauchemar absolu qu'on appelle, qui est l'interministériel, où tout le monde s'en mêle. Pour la consommation, il y a Bercy, il y a les entreprises, il y a le Premier ministre, etc. Donc, la réponse est non, il ne faut rien interdire du tout. Oui, heureusement que nous avons Amazon, je suis désolée, heureusement, qui d'ailleurs abrite énormément de sociétés françaises avec des plateformes. Et il faudrait au contraire, je pense là, inciter à dire à nos petits commerçants, il y en a qui peuvent pas, c'est un peu difficile, mais il y en a énormément qui s'adaptent. On est très doués, les entrepreneurs sont doués, les commerçants sont doués. Il faut se mettre sur Internet. Il y a des possibilités là. Il y a une librairie qui ouvre avec à certaines heures et on a commandé son livre et on l'a. Donc le problème des librairies est en train de se résoudre. Il faut que ce soit la même chose dans les autres commerces. Et il faut arrêter de vouloir attendre des solutions indéfiniment, que ce soit d'ailleurs pour l'approvisionnement des écoles, que pour les achats qu'on fait. Laissez les gens, faites confiance aux gens, faites confiance aux entreprises.
Oui, mais enfin, les petits commerçants sont ceux qui réclament la fermeture ou l'interdiction de ce Black Friday, Matteo Ghisalberti.
Oui, je pense que je ne suis pas complètement d'accord avec Sophie de Menton dans le sens que il faut prendre en considération l'année qu'on est en train de vivre. Déjà, je ne suis pas toujours d'accord avec l'auto-réglementation, disons, des gens, parce que on est tous des humains et donc on a tendance à choisir la facilité. Donc, si quelqu'un peut me livrer les choses rapidement, peu importe si la personne qui me le livre est soumise à des conditions de travail parfois effectivement un peu limite, mais je voudrais aussi rappeler que à côté d'Amazon, qui n'est pas toujours un exemple à suivre du point de vue fiscal, par exemple, il y a aussi d'autres réalités comme Cdiscount qui est français. Mais je voudrais aussi dire une chose, que il y a une concurrence déloyale qu'on peut constater tous si on sort de chez nous, même confinés, entre les grandes surfaces et les petits commerces. Parce que c'est vrai qu'on a interdit la vente de certains biens, mais alors que pour entrer dans un petit magasin, vous devez faire la queue. Enfin, vous deviez faire la queue parce que maintenant, ils sont fermés. Vous vous laviez les mains. Enfin, bref, on respectait beaucoup les mesures de distanciation sociale. Dans un supermarché, vous pouvez rentrer autant que vous voulez. Enfin, s'il y a 200 personnes qui, après, s'agglutinent aux caisses, c'est pas un problème. Et désolé, mais c'est l'un des endroits où on peut effectivement s'échanger les virus, c'est passer les virus, malheureusement.
Mais Mathéo, fermer les grandes surfaces, c'est d'abord malheureusement.
Non, mais je dis, alors, moi je me rappelle toujours qu'il y a des emplois dans les grandes surfaces et aussi dans Amazon, et aussi dans... Enfin, je pense aussi à ça. Mais ce que je dis, c'est que alors qu'on a imposé des mesures draconiennes à des petits et on les a fait fermer maintenant, je ne dis pas que les supermarchés doivent fermer, évidemment non, mais...
Vous êtes dans un supermarché ces jours-ci, Mathéo, parce
oui.
Je trouve qu'ils se débrouillent très bien, il y a une vraie sécurité, on a du gel partout, enfin...
Il y a toujours eu, mais c'est pas la question. Ouais. Romain Colas, peut-être rebondir sur ce que dit Mathéo.
Je partage grandement. La vérité, c'est que cette tribune que vous évoquez de Fédération de Petits Commerces qui exige une interdiction, je vois pas d'ailleurs comment légalement ce serait possible, du Black Friday, c'est quand même l'illustration de la gestion calamiteuse du sujet des commerces par le gouvernement dans le cadre de cette phase de reconfinement. Enfin, pardonnez-moi, mais on a demandé à nos commerçants de centre-ville ou pas centre-ville d'ailleurs, de mettre en œuvre des protocoles sanitaires. Ils s'y sont conformés, ils ont engagé des frais, ils ont renoncé, alors même qu'ils avaient perdu du chiffre d'affaires, je parle pour ceux du service, notamment les coiffeurs, ils ont renoncé à nouveau à une partie de leur chiffre d'affaires pour pas saturer les salons, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde, etc. Ils ont engagé des frais et on leur dit désolé, malgré tous vos efforts, dans ce confinement et mental, dans lequel nous sommes rentrés, parce que moi, vu de ma fenêtre, très franchement, et je dis ça à regret, je vois pas énormément de différence avec ce que je constatais de flux de voitures et de passants par rapport à la période antérieure. Et donc, on a eu une gestion calamiteuse. Et j'accable pas le gouvernement parce que je suis conscient du fait que il est confronté à une situation qui évolue, sur laquelle le savoir évolue, mais je trouve que sur cet aspect précis, les leçons du premier confinement n'ont pas été tirées et que le gouvernement a été particulièrement léger à l'égard de ces commerçants qui ont fait des efforts incommensurables pour respecter les gestes barrières, les mesures
sanitaires. Et qui en font maintenant pour livrer,
voilà.
Pour...
Et qui se sentent aujourd'hui légitimement pénalisés par rapport effectivement aux grandes surfaces. Et puis on a cette aberration, là je partage ce que disait Sophie, moi j'étais pas allé dans un centre commercial depuis un moment, il a bien fallu que je remplisse mon frigo ce week-end, donc j'ai utilisé mon attestation et puis je suis allé faire des courses dans un supermarché et j'ai découvert que le caleçon n'était pas un produit de première nécessité.
Non.
Enfin, je veux dire, on en est là quoi. Le rayon des sous-vêtements, hommes comme femmes, les choses. Enfin, c'est pour moi la plus belle des illustrations de la gestion calamiteuse de ce sujet.
C'est la perte absolue du bon sens. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a une perte absolue du sens commun, du bon sens. Et ça, c'est une véritable révolte que ressentent les gens, parce que des bêtises pareilles font qu'on est entraîné à désobéir. Quand on voit des décisions stupides, on a envie de désobéir. Même la fermeture des coiffeurs, vous avez raison, ils ont fait des efforts incroyables. On aurait même pu y aller deux par deux dans la boutique, enfin, alors qu'on accepte le métro et qu'on ne pourrait pas aller chez le coiffeur. On n'a pas le droit de les avoir à domicile. C'est une incitation à la désobéissance civile par bêtise et par manque de sens commun.
Alors, Michel Taube, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je rappelle que Bruno Le Maire, lui, a dit qu'il était en train d'envisager de nouvelles règles sanitaires avec la possibilité de relever la jauge d'accueil aujourd'hui de 4 mètres carrés par client, peut-être qu'ils vont revoir leur copie, mais là aussi, ils s'en rendent compte un petit peu tard. Michel.
Bah, évidemment, beaucoup trop tard, et les changements incessants de braquets, d'injonctions paradoxales qu'on nous impose, c'est absolument... c'est absolument insupportable. Et effectivement, moi, par rapport à la question de l'Amazon et des autres, je pense que les fédérations professionnelles auraient peut-être dû mettre beaucoup plus d'efforts dans aider leurs adhérents à s'équiper en moyens Internet, de proposer des mesures alternatives. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a des erreurs du gouvernement et que s'ils avaient dès le départ dit « Vous pouvez rester ouvert uniquement sur prise de rendez-vous en respectant une jauge correspondant à la taille de votre commerce », tout allait très bien et l'économie pouvait continuer à fonctionner. Et donc, je trouve vraiment qu'il y a eu deux poids, deux mesures, voire deux fois 14 mesures, et que les grandes surfaces, n'en déplaise à ce que dit notre chère Sophie de Menton, les grandes surfaces s'en tirent beaucoup mieux que les petits
commerces. D'abord, je n'ai jamais dit le contraire.
Oui, elles s'en tirent mieux parce qu'elles sont ouvertes par rapport aux petits commerces.
J'ai jamais dit le contraire. Je ne suis pas du tout emballée par les grandes surfaces, mais on ne va pas fermer tout le monde.
Mais Sophie, on prend des mesures justes. Et je trouve profondément injuste que les grandes surfaces aient pu rester ouvertes.
Moi aussi.
En permettant en plus d'aller dans les rayons pour des produits.
Aussi, Michel, je dis la même chose.
Sophie, laissez terminer Michel.
Michel.
Et juste dernier point, ce que je voulais te proposer, c'est qu'on ne cite plus Amazon et que quand on donne des exemples de plateformes numériques, on cite des entreprises françaises. Il y en a plein.
Rue du Commerce.
Voilà. Donc arrêtons de faire de la pub à Jeff Bezos.
Oui, mais
L'excellent site français pourdebon.fr qui vous met en relation avec des producteurs.
Les libraires.
Avec des producteurs de légumes, de viande qui vous livrent chez vous.
Ça, c'est une vraie question aussi. C'est pourquoi la France ne s'est pas numérisée beaucoup plus rapidement aussi. Là, il y a une vraie faille aussi. On verra ce qui va se passer vendredi et surtout si Bruno Le Maire accepte de réouvrir les petits commerces. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.